Le capital sans les notes. Livre 1er, première section, chapitre 1er, grand 3. Grand B. Forme valeur totale ou développée. Z marchandise grand A égale U marchandise grand B ou égale V marchandise grand C ou égale X marchandise grand E ou égale etc. 20 mètres de toile égale un habit ou égale 10 livres de thé ou égale 40 livres de café ou égale 2 onces d'or ou égale une demi-tonne de fer ou égale etc. Petit a. La forme développée de la valeur relative. La valeur d'une marchandise, de la toile par exemple, est maintenant représentée dans d'autres éléments innombrables. Elle se reflète dans tout autre corps de marchandise comme en un miroir. Note de bas de page. Voilà pourquoi l'on parle de la valeur habit de la toile quand on exprime sa valeur en habit, de sa valeur blé quand on l'exprime en blé, etc. Chaque expression semblable donne à entendre que c'est sa propre valeur qui se manifeste dans ses diverses valeurs d'usage. Ouvrez les guillemets. La valeur d'une marchandise dénote son rapport d'échange. Nous pouvons donc parler de sa valeur blé, sa valeur habit, par rapport à la marchandise à laquelle elle est comparée. Et alors, il y a des milliers d'espèces de valeurs. Autant d'espèces de valeurs qu'il y a de genres de marchandises. Et toutes sont également réelles et également nominales. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. A critical dissertation on the nature, measure and causes of value. Chiefly in reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers. By the author of Essays on the Formation, etc. of Opinions, London, 1825, page 39, fermez la parenthèse. S. Bailey, l'auteur de cet écrit anonyme, qui fit dans son temps beaucoup de bruit en Angleterre, se figure avoir anéanti tout concept positif de valeur par cette énumération des expressions relatives variées de la valeur d'une même marchandise. Quelle que fût l'étroitesse de son esprit, il n'en a pas moins parfois mis à nu les défauts de la théorie de Ricardo. Ce qui le prouve, c'est l'animosité avec laquelle il a été attaqué par l'école ricardienne, par exemple dans la Westminster Review. Fin de la note de bas de page. Donc, la valeur d'une marchandise, de la toile par exemple, est maintenant représentée dans d'autres éléments innombrables. Elle se reflète dans tout autre corps de marchandise, comme en un miroir. Tout autre travail, quelle qu'en soit la forme naturelle, taille, ensemençage, extraction de fer ou d'or, etc., est maintenant affirmé égal au travail fixé dans la valeur de la toile, qui manifeste ainsi son caractère de travail humain. La forme totale de la valeur relative met une marchandise en rapport social avec toute. En même temps, la série interminable de ces expressions démontre que la valeur des marchandises revêt indifféremment toute forme particulière de valeur d'usage. Dans la première forme, 20 mètres de toile égale un habit, il peut sembler que ce soit par hasard que ces deux marchandises sont échangeables dans cette proportion déterminée. Dans la seconde forme, au contraire, on aperçoit immédiatement ce que cache cette apparence. La valeur de la toile reste la même, qu'on l'exprime en vêtements, en café, en fer, au moyen de marchandises sans nombre, appartenant à des échangistes les plus divers. Il devient évident que ce n'est pas l'échange qui règle la quantité de valeur d'une marchandise, mais, au contraire, la quantité de valeur de la marchandise qui règle ses rapports d'échange. Petit b. La forme équivalent particulière. Chaque marchandise, habit, froment, thé, fer, etc., sert d'équivalent dans l'expression de la valeur de la toile. La forme naturelle de chacune de ces marchandises est maintenant une forme équivalente particulière à côté de beaucoup d'autres. De même, les genres variés de travaux utiles contenus dans les divers corps de marchandises représentent autant de formes particulières de réalisation ou de manifestation du travail humain pur et simple. Petit c. Défaut de la forme valeur totale ou développée. D'abord, l'expression relative de valeur est inachevée, parce que la série de ces termes n'est jamais close. La chaîne dont chaque comparaison de valeur forme un des anneaux peut s'allonger à volonté à mesure qu'une nouvelle espèce de marchandise fournit la matière d'une expression nouvelle. Si de plus, comme cela doit se faire, on généralise cette forme en l'appliquant à tout genre de marchandise, on obtiendra au bout du compte autant de séries diverses et interminables d'expressions de valeur qu'il y aura de marchandises. Les défauts de la forme développée de la valeur relative se reflètent dans la forme équivalente qui lui correspond. Comme la forme naturelle de chaque espèce de marchandise fournit ici une forme équivalente particulière à côté d'autres en nombre infini, il n'existe en général que des formes équivalentes fragmentaires, dont chacune exclut l'autre. De même, le genre de travail utile concret contenu dans chaque équivalent n'y présente qu'une forme particulière, c'est-à-dire une manifestation incomplète du travail humain. Ce travail possède bien, il est vrai, sa forme complète ou totale de manifestation dans l'ensemble de ses formes particulières. Mais l'unité de forme et d'expression fait défaut. La forme totale ou développée de la valeur relative ne consiste cependant qu'en une somme d'expressions relatives simples ou d'équations de la première forme, telles que 20 mètres de toile égale un habit, 20 mètres de toile égale 10 livres de thé, etc., dont chacune contient réciproquement l'équation identique, un habit égale 20 mètres de toile, 10 livres de thé égale 20 mètres de toile, etc. En fait, le possesseur de la toile l'échange-t-il contre beaucoup d'autres marchandises et exprime-t-il conséquemment sa valeur dans une série d'autant de termes? Les possesseurs des autres marchandises doivent les échanger contre la toile et exprimer les valeurs de leurs marchandises diverses dans un seul et même terme, la toile. Si donc nous retournons la série, 20 mètres de toile égale un habit, ou égale 10 livres de thé, ou etc. C'est-à-dire si nous exprimons la réciproque qui y est déjà implicitement contenue, nous obtenons grand C, forme valeur générale, un habit, 10 livres de thé, 40 livres de café, 2 onces d'or, 1 demi-tonne de fer, X marchandises grand A, etc., égale 20 mètres de toile. Petit A, changement de caractère de la forme valeur. Les marchandises expriment maintenant leur valeur, premièrement, d'une manière simple, parce qu'elle l'exprime dans une seule espèce de marchandise. Deuxièmement, avec ensemble, parce qu'elle l'exprime dans la même espèce de marchandise. Leur forme valeur est simple et commune, conséquemment générale. Les formes grand 1 et grand 2 ne parvenaient à exprimer la valeur d'une marchandise que comme quelque chose de distinct de sa propre valeur d'usage ou de sa propre matière. La première forme fournit des équations telles que celle-ci. Un habit égale 20 mètres de toile, 10 livres de thé égale une demi-tonne de fer, etc. La valeur de l'habit est exprimée comme quelque chose d'égal à la toile, la valeur du thé comme quelque chose d'égal au fer, etc. Mais ces expressions de la valeur de l'habit et du thé sont aussi différentes l'une de l'autre que la toile et le fer. Cette forme ne se présente évidemment dans la pratique qu'aux époques primitives où les produits du travail n'étaient transformés en marchandises que par des échanges accidentels et isolés. La seconde forme exprime plus complètement que la première la différence qui existe entre la valeur d'une marchandise, par exemple d'un habit, et sa propre valeur d'usage. En effet, la valeur de l'habit y prend toutes les figures possibles vis-à-vis de sa forme naturelle. Elle ressemble à la toile, au thé, au fer, à tout, excepté à l'habit. D'un autre côté, cette forme rend impossible toute expression commune de la valeur des marchandises, car, dans l'expression de valeur d'une marchandise quelconque, toutes les autres figurent comme ses équivalents, et sont, par conséquent, incapables d'exprimer leur propre valeur. Cette forme valeur développée se présente dans la réalité dès qu'un produit du travail, le bétail par exemple, est échangé contre d'autres marchandises différentes, non plus par exception, mais déjà par habitude. Dans l'expression générale de la valeur relative, au contraire, chaque marchandise, telle qu'habit, café, fer, etc., possède une seule et même forme valeur, par exemple la forme toile, différente de sa forme naturelle. En vertu de cette ressemblance avec la toile, la valeur de chaque marchandise est maintenant distincte non seulement de sa propre valeur d'usage, mais encore de toutes les autres valeurs d'usage, et, par cela même, représentée comme le caractère commun et indistinct de toutes les marchandises. Cette forme est la première qui met les marchandises en rapport entre elles comme valeurs, en les faisant apparaître l'une vis-à-vis de l'autre comme valeur d'échange. Les deux premières formes expriment la valeur d'une marchandise quelconque, soit en une autre marchandise différente, soit en une série de beaucoup d'autres marchandises. Chaque fois, c'est, pour ainsi dire, l'affaire particulière de chaque marchandise prise à part de se donner une forme valeur. Et elle y parvient sans que les autres marchandises s'en mêlent. Celle-ci joue vis-à-vis d'elle le rôle purement passif d'équivalent. La forme générale de la valeur relative ne se produit au contraire que comme l'œuvre commune des marchandises dans leur ensemble. Une marchandise n'acquiert son expression de valeur générale que parce que, en même temps, toutes les autres marchandises expriment leur valeur dans le même équivalent, et chaque espèce de marchandise nouvelle qui se présente doit faire de même. De plus, il devient évident que les marchandises qui, au point de vue de la valeur, sont des choses purement sociales, ne peuvent aussi exprimer cette existence sociale que par une série embrassant tous leurs rapports réciproques. que leur forme-valeur doit, par conséquent, être une forme socialement validée. La forme naturelle de la marchandise, qui devient l'équivalent commun, la toile, est maintenant la forme officielle des valeurs. C'est ainsi que les marchandises se montrent les unes aux autres, non seulement leur égalité qualitative, mais encore leur différence quantitative de valeur. Les quantités de valeurs projetées comme sur un même miroir, la toile, se reflètent réciproquement. Exemple, 10 livres de thé égale 20 mètres de toile et 40 livres de café égale 20 mètres de toile. Donc, 10 livres de thé égale 40 livres de café, ou bien, il n'y a dans une livre de café que un quart du travail contenu dans une livre de thé. La forme générale de la valeur relative embrassant le monde des marchandises imprime à la marchandise équivalent, qui en est exclue, le caractère d'équivalent général. La toile est maintenant immédiatement échangeable avec toutes les autres marchandises. Sa forme naturelle est donc en même temps sa forme sociale. Le tissage, le travail privé qui produit la toile, acquiert par cela même le caractère de travail social, la forme d'égalité avec tous les autres travaux. Les innombrables équations dont se compose la forme générale de la valeur identifient le travail réalisé dans la toile avec le travail contenu dans chaque marchandise qui lui est tour à tour comparée et fait du tissage la forme générale dans laquelle se manifeste le travail humain. De cette manière, le travail réalisé dans la valeur des marchandises n'est pas seulement représenté négativement, c'est-à-dire comme une abstraction où s'évanouissent les formes concrètes et les propriétés utiles du travail réel. Sa nature positive s'affirme nettement. Elle est la réduction de tous les travaux réels à leur caractère commun de travail humain, de dépense de la même force humaine de travail. La forme générale de la valeur montre, par sa structure même, quelle est l'expression sociale du monde des marchandises. Elle révèle, par conséquent, que dans ce monde, le caractère humain ou général du travail forme son caractère social spécifique. Petit b, rapport de développement de la forme valeur relative et de la forme équivalent. La forme équivalent se développe simultanément et graduellement avec la forme relative. Mais, et c'est là ce qu'il faut bien remarquer, le développement de la première n'est que le résultat et l'expression du développement de la seconde. C'est de celle-ci que part l'initiative. La forme valeur relative simple ou isolée d'une marchandise suppose une autre marchandise quelconque comme équivalent accidentel. La forme développée de la valeur relative, cette expression de la valeur d'une marchandise dans toutes les autres, leur imprime à toutes la forme d'équivalent particulier d'espèces différentes. Enfin, une marchandise spécifique acquiert la forme d'équivalent général parce que toutes les autres marchandises en font la matière de leur forme générale de valeur relative. À mesure cependant que la forme valeur en général se développe aussi l'opposition entre ces deux pôles, valeur relative et équivalent. De même, la première forme valeur, 20 mètres de toile égale un habit, contient cette opposition, mais ne la fixe pas. Dans cette équation, l'un des termes, la toile, se trouve sous la forme valeur relative, et le terme opposé, l'habit, sous la forme équivalent. Si maintenant on lit à rebours cette équation, la toile et la bille changent tout simplement de rôle, mais la forme de l'équation reste la même. Aussi est-il difficile de fixer ici l'opposition entre les deux termes. Sous la forme grand 2, une espèce de marchandise peut développer complètement sa valeur relative, revêt la forme totale de la valeur relative, parce que et en tant que, toutes les autres marchandises se trouvent vis-à-vis d'elle sous la forme équivalente. Ici, l'on ne peut déjà plus renverser les deux termes de l'équation sans changer complètement son caractère et la faire passer de la forme valeur totale à la forme valeur générale. Enfin, la dernière forme, la forme grand 3, donne à l'ensemble des marchandises une expression de valeur relative générale et uniforme, parce que et en tant qu'elle exclut de la forme équivalente toutes les marchandises à l'exception d'une seule. Une marchandise, la toile, se trouve conséquemment sous forme d'échangeabilité immédiate avec toutes les autres marchandises, parce que et en tant que celle-ci ne s'y trouve pas. Note de bas de page. La forme d'échangeabilité immédiate et universelle n'indique pas le moins du monde au premier coup d'œil qu'elle est une forme polarisée, renfermant en elle des oppositions, et tout aussi inséparable de la forme contraire sous laquelle l'échange immédiat n'est pas possible, que le rôle positif d'un des pôles d'un aimant l'est du rôle négatif de l'autre pôle. On peut donc s'imaginer qu'on a la faculté de rendre toutes les marchandises immédiatement échangeables, comme on peut se figurer que tous les catholiques peuvent être faits papes en même temps. Mais en réalité, la valeur relative générale et la forme équivalent générale sont les deux pôles opposés, se supposant et se repoussant réciproquement du même rapport social des marchandises. Cette impossibilité d'échange immédiat entre les marchandises est un des principaux inconvénients attachés à la forme actuelle de la production, dans laquelle, cependant, l'économiste bourgeois voit le nec plus ultra de la liberté humaine et de l'indépendance individuelle. Bien des efforts inutiles, utopiques, ont été tentés pour vaincre cet obstacle. J'ai fait voir ailleurs que Proudhon avait été précédé dans cette tentative par Bray, Gray et d'autres encore. Cela n'empêche pas ce genre de sagesse de sévir aujourd'hui en France sous le nom de « science » entre guillemets. Jamais une école n'avait plus abusé du mot « science » entre guillemets que l'école proudhonienne, car, trois petits points, là où manquent les idées, se présente à point un mot. Fin de la note de bas de page. Donc, une marchandise, la toile, se trouve conséquemment sous forme d'échangeabilité immédiate avec toutes les autres marchandises, parce que et en tant que celle-ci ne s'y trouve pas. Sous cette forme grand 3, le monde des marchandises ne possède donc une forme valeur relative, sociale et générale que parce que toutes les marchandises qui en font partie sont exclues de la forme équivalent ou de la forme sous laquelle elles sont immédiatement échangeables. Par contre, la marchandise qui fonctionne comme équivalent général, la toile, par exemple, ne saurait prendre part à la forme générale de la valeur relative. Il faudrait pour cela qu'elle pût se servir à elle-même d'équivalent. Nous obtenons alors 20 mètres de toile égale 20 mètres de toile, tautologie qui n'exprime ni valeur, ni quantité de valeur. Pour exprimer la valeur relative de l'équivalent général, il nous faut lire à rebours la forme 3. Il ne possède aucune forme relative commune avec les autres marchandises, mais sa valeur s'exprime relativement dans la série interminable de toutes les autres marchandises. La forme développée de la valeur relative, ou forme grand E, nous apparaît ainsi maintenant comme la forme spécifique dans laquelle l'équivalent général exprime sa propre valeur. Petit c, transition de la forme valeur générale à la forme argent. La forme équivalent général est une forme de la valeur en général. Elle peut donc appartenir à n'importe quelle marchandise. D'un autre côté, une marchandise ne peut se trouver sous cette forme, forme grand 3 entre parenthèses, que parce qu'elle est exclue elle-même par toutes les autres marchandises comme équivalent. Ce n'est qu'à partir du moment où ce caractère exclusif vient s'attacher à un genre spécial de marchandise que la forme valeur relative prend consistance, se fixe dans un objet unique et acquiert une authenticité sociale. La marchandise spéciale avec la forme naturelle de laquelle la forme équivalent s'identifie peu à peu dans la société devient marchandise monnaie ou fonctionne comme monnaie. Sa fonction sociale spécifique et conséquemment son monopole social est de jouer le rôle de l'équivalent universel dans le monde des marchandises. Parmi les marchandises qui, dans la forme grande E, figurent comme équivalent particulier de la toile et qui, sous la forme grand 3, expriment ensemble dans la toile leur valeur relative, c'est l'or qui a conquis historiquement ce privilège. Mettons donc dans la forme grand 3 la marchandise or à la place de la marchandise toile, et nous obtenons grand D, forme monnaie ou argent, note de bas de page. La traduction exacte des mots allemands Geld, Geldform, entre guillemets, présente une difficulté. L'expression forme argent, entre guillemets, peut indistinctement s'appliquer à toutes les marchandises, sauf les métaux précieux. On ne saurait pas dire, par exemple, sans amener une certaine confusion dans l'esprit des lecteurs, ouvrez les guillemets, forme argent de l'argent, fermez les guillemets, ou bien, ouvrez les guillemets, l'or devient argent, fermez les guillemets. Maintenant, l'expression, ouvrez les guillemets, forme monnaie, fermez les guillemets, présente un autre inconvénient, qui vient de ce qu'en français, le mot monnaie, entre guillemets, est souvent employé dans le sens de pièce monnayée. Nous employons alternativement les mots forme monnaie, entre guillemets, et forme argent, entre guillemets, suivant les cas, mais toujours dans le même sens. Fin de la note de bas de page. Donc, mettons donc dans la forme grand 3 la marchandise or à la place de la marchandise toile, et nous obtenons grand D, forme monnaie ou argent, 20 mètres de toile, un habit, 10 livres de thé, 40 livres de café, une demi-tonne de fer, X marchandises grand A, etc., égale 2 onces d'or. Des changements essentiels ont lieu dans la transition de la forme grand 1 à la forme grand 2 et de la forme grand 2 à la forme grand 3. La forme grand 4, au contraire, ne diffère en rien de la forme grand 3, si ce n'est que maintenant, c'est l'or qui possède à la place de la toile la forme équivalent générale. Le progrès consiste tout simplement en ce que la forme d'échangeabilité immédiate et universelle, ou la forme d'équivalent général, s'est incorporée définitivement dans la forme naturelle et spécifique de l'or. L'or ne joue le rôle de monnaie vis-à-vis des autres marchandises que parce qu'il jouait déjà auparavant, vis-à-vis d'elle, le rôle de marchandise. De même qu'elle toute, il fonctionnait aussi comme équivalent, soit accidentellement dans des échanges isolés, soit comme équivalent particulier à côté d'autres équivalents. Peu à peu, il fonctionna dans des limites plus ou moins larges comme équivalent général, dès qu'il a conquis le monopole de cette position dans l'expression de la valeur du monde marchand. Il devient marchandise-monnaie, et c'est seulement à partir du moment où il est déjà devenu marchandise-monnaie que la forme grand 4 se distingue de la forme grand 3, ou que la forme générale de valeur se métamorphose en forme monnaie ou argent. L'expression de valeur relative simple d'une marchandise, de la toile par exemple, dans la marchandise qui fonctionne déjà comme monnaie, par exemple l'or, est forme prix. La forme prix de la toile est donc 20 mètres de toile égale 2 onces d'or. Ou, si 2 livres sterling sont le nom de monnaie de 2 onces d'or, 20 mètres de toile égale 2 livres sterling. La difficulté dans le concept de la forme argent, c'est tout simplement de bien saisir la forme équivalent générale, c'est-à-dire la forme valeur générale, la forme grand 3. Celle-ci se résout dans la forme valeur développée, la forme grand 2, et l'élément constituant de cette dernière est la forme grand 1, 20 mètres de toile égale un habit, ou X marchandise grand A égale Y marchandise grand B. La forme simple de la marchandise est par conséquent le germe de la forme argent. Note de bas de page. L'économie politique classique n'a jamais réussi à déduire de son analyse de la marchandise, et spécialement de la valeur de cette marchandise, la forme sous laquelle elle devient valeur d'échange. Et c'est là un de ses vices principaux. Ce sont précisément ses meilleurs représentants, tels qu'Adam Smith et Ricardo, qui traitent la forme valeur comme quelque chose d'indifférent ou n'ayant aucun rapport intime avec la nature de la marchandise elle-même. Ce n'est pas seulement parce que la valeur comme quantité absorbe leur attention. La raison en est plus profonde. La forme valeur du produit du travail est la forme la plus abstraite et la plus générale du mode de production actuel, qui acquiert par cela même un caractère historique, celui d'un mode particulier de production sociale. Si on commet l'erreur de la prendre pour la forme naturelle, éternelle, de toute production dans toute société, on perd nécessairement de vue le côté spécifique de la forme valeur, puis de la forme marchandise, et à un degré plus développé, de la forme argent, forme capital, etc. C'est ce qui explique pourquoi on trouve chez des économistes complètement d'accord entre eux sur la mesure de la quantité de valeur par la durée du travail, les idées les plus diverses et les plus contradictoires sur l'argent, c'est-à-dire sur la forme fixe de l'équivalent général. On remarque cela surtout dès qu'il s'agit de questions telles que celles des banques, par exemple. C'est alors à n'en plus finir avec les définitions de la monnaie et les lieux communs constamment débités à ce propos. Je fais remarquer une fois pour toutes que j'entends par économie politique classique toute économie qui, à partir de William Petty, cherche à pénétrer l'ensemble réel et intime des rapports de production dans la société bourgeoise, par opposition à l'économie vulgaire qui se contente des apparences, rumine sans cesse pour son propre besoin et pour la vulgarisation des plus grossiers phénomènes les matériaux déjà élaborés par ses prédécesseurs et se borne à ériger pédantesquement en système et à proclamer comme vérités éternelles les illusions dont le bourgeois aime à peupler son monde à lui, le meilleur des mondes possibles. Fin de la note de bas de page.